Deutsche Welle. Vue d'Allemagne.
Jérusalem est la capitale d'Israël. Personne ne peut le nier. Le président Trump n'a fait que mettre des réalités sur la table. Je pense que la plupart des pays européens vont lui emboîter le pas.
Une semaine après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a défendu la décision du président américain devant l'Union européenne. Parallèlement, les manifestations de colère se poursuivent au Moyen-Orient et Jérusalem continue de dominer l'agenda diplomatique de différents États. Cette semaine, on va tenter de voir un peu plus clair dans ce dossier éminemment complexe. Et puis on s'intéressera aussi à l'accueil particulier que réservent les habitants de l'île grecque de Tylos aux migrants. Au micro, c'est Constance Dunkotse. Guten Tag, bonjour à tous. Le 6 décembre dernier, Donald Trump a donc décidé de déplacer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Une décision qui a suscité et suscite encore chez une grande majorité de gens à travers le monde la colère, l'incompréhension et l'inquiétude. Inquiétude de voir une nouvelle flambée de violence dans une région déjà meurtrie. Une minorité voit au contraire dans ce déménagement l'accomplissement d'une promesse électorale du président américain et la reconnaissance d'un état de fait. Pourquoi une telle divergence de point de vue à l'égard de ce qui n'est en apparence qu'une ville ? Eh bien, ce n'est justement pas qu'une ville. D'abord, c'est une ville sainte, et ce, pour trois religions, le christianisme, le judaïsme et l'islam. Dans la vieille ville se trouvent des lieux sacrés, essentiels pour les fidèles de ces différentes croyances, le tombeau du Christ, le mur des Lamentations et l'esplanade des mosquées. Jérusalem est donc d'abord au cœur d'une bataille religieuse, et ce, depuis des millénaires. Mais outre l'enjeu religieux, Jérusalem est aussi au cœur d'un conflit géostratégique. Et celui-là est beaucoup plus récent, une cinquantaine d'années environ. En 1947, lorsque les Nations Unies votent le partage de la Palestine en deux États, l'un arabe, qui comprend notamment la Cisjordanie, l'autre juif, Israël, Jérusalem passe sous le contrôle de l'ONU afin que chaque religion puisse continuer à avoir accès librement aux lieux de culte. Étape suivante, dès 1949, Israël décide de transférer sa capitale de Tel Aviv à Jérusalem. Aujourd'hui encore, le Parlement, la Knesset, les principaux ministères, la Banque centrale israélienne, les bureaux du Premier ministre se trouvent dans la partie ouest de la ville, peuplée majoritairement de juifs. Jérusalem-Est, peuplée majoritairement d'Arabes, englobe pour sa part la vieille ville. Lorsqu'à la fin des années 60, Israël lance une offensive éclair contre les quartiers orientaux de Jérusalem et la Cisjordanie, c'est la guerre des six jours, elle s'empare de Jérusalem-Est et s'assure ainsi un accès direct au mur des Lamentations. Jérusalem, dans sa totalité, est alors proclamée capitale réunifiée, indivisible et éternelle d'Israël. Une décision que ne reconnaissent évidemment pas les Palestiniens, qui revendiquent jusqu'à aujourd'hui Jérusalem comme capitale de l'État auquel ils aspirent. Plus globalement, aucun autre pays ne reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Et c'est pour cette raison que de nombreuses ambassades étrangères se trouvent à Tel Aviv et non à Jérusalem, en signe de protestation. L'ONU, pour sa part, considère que la question du statut final de la ville doit faire l'objet de négociations entre Israéliens et Palestiniens. En attendant, Israël renforce ses positions en territoire occupé. Cela se traduit par une colonisation immobilière de la ville et de sa banlieue. Et puis en 2002, Israël se lance dans la construction d'un mur de séparation dont le tracé évolue sans cesse. Officiellement, cette gigantesque barrière de béton doit protéger les Israéliens d'attaques terroristes commises par les extrémistes palestiniens. Dans les faits, cependant, elle empiète largement sur la Cisjordanie, entrave la liberté de mouvement des Palestiniens et est en contradiction avec le droit international. Les États-Unis ont eux toujours été un acteur important dans la région. Ils sont proches d'Israël, mais jusqu'ici, ils ont tenté d'endosser le rôle de médiateur impartial pour faciliter le dialogue entre les deux parties. Sans véritable succès, malgré les efforts, puisque le conflit israélo-palestinien, on le voit bien, n'a toujours pas trouvé d'issue. Donald Trump a proclamé pendant sa campagne électorale qu'avec lui, les choses allaient changer. Et si beaucoup de juifs américains ont voté pour le parti démocrate, le candidat républicain avait en revanche séduit de nombreux citoyens chrétiens conservateurs. La déclaration de Donald Trump du 6 décembre a déclenché une vague de colère dans le monde arabe et des protestations dans le monde entier. Elle ne permet pas cependant d'entrevoir clairement à quoi ressemblera la future politique des États-Unis dans la région. Nombreux sont ceux en tout cas qui estiment que les Américains ne peuvent plus être des médiateurs crédibles, mais personne ne sait pour le moment quel pays ou ensemble de pays pourrait prendre leur place. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. In the ancient days, we will return with no delay. Vous écoutez Vue d'Allemagne sur les ondes de la Deutsche Welle. Le soleil se fait plus rare, les nuits sont plus courtes et aussi plus fraîches. Avec l'arrivée de l'hiver, la Grèce se creuse de nouveau la tête pour gérer dans des conditions acceptables ses foyers de réfugiés. L'an dernier, nombre d'entre eux sont morts faute de logements adéquats, en particulier sur les îles grecques. L'idée cette année est donc de rapatrier davantage de migrants sur le continent pour désengorger les îles. À Tilos, cependant, tout petit bout de terre plongé dans la mer Égée, on ne demande au contraire qu'à garder et à intégrer les réfugiés. Le reportage sur place de notre correspondant Thomas Jacobi.
Hélène Pissa, de l'association Solidarity Now, Solidarité Maintenant, nous fait visiter le camp de réfugiés de Tilos. Rien ne manque. La cuisine, l'aire de jeu, la salle commune. Il y a même des chaises longues pour la plage, nous dit-elle. En chemin, nous rencontrons Maaka, la trentaine, 5 enfants, un sourire éclaire son visage. Elle rentre du travail et nous montre fièrement qu'elle apprend un peu le grec.
Yes, I have, you know, some words like afkharsto, parakallo, kalimera.
Oui, je connais quelques mots comme merci, de rien, bonjour, bonsoir, bonne nuit, quelques mots quoi. Je veux rester à Tilos. Au début, quand je suis venue, j'étais triste. Mais quand j'ai vu l'île, les gens, au bout de 2 semaines, j'étais très heureuse parce que maintenant je travaille. Je peux laisser mes enfants ici sans crainte. Il y a plein de choses bien ici.
I go my work and left my children here alone. And many things good here.
Maa fait partie des 50 Syriens, soit 10 familles, qui font partie du programme pilote d'insertion mené par la mairesse, Maria Kama, et financé par l'UNHCR, le Haut Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Un programme bénéfique pour les réfugiés, mais aussi et surtout pour l'île de Tilos elle-même.
Le camp
de Tilos fait du bien à l'île à différents niveaux. 13 emplois permanents ont été créés et comme la priorité est donnée aux insulaires, les Tiliotes qui avaient quitté l'île à cause du chômage sont revenus avec leur famille. L'année dernière, à la rentrée, il y avait 20 enfants par classe entre la crèche et le CP. Je n'avais pas vu ça depuis les années 70. C'est pas beau ça? C'est pas une belle réussite?
Cette approche de la détresse humaine a ses racines dans le passé douloureux de l'île. Tous les jours, Michalis parcourt l'île avec sa camionnette. Le boulanger de l'île livre du pain aux réfugiés bénévolement. Et il n'a pas la mémoire courte.
Ma grand-mère aussi a dû partir après la perte de 2 de ses enfants morts de faim. Mon grand-père est mort quand ma mère avait 4 ans. On est parti à Rhodes, mais du côté de mon père, la famille venait d'Asie mineure. On a tous en nous un bout de réfugiés, surtout nous, gens des îles.
Ce qui a mobilisé Michaelis, qui maintenant emploie des réfugiés dans sa boulangerie, c'est la première rencontre qu'il a eue il y a des années avec un naufragé syrien.
Il était accroupi par terre sur le port, il était au bord des larmes. Je lui ai proposé de l'eau, il m'a dit qu'il voulait juste téléphoner. Mais je ne voulais pas lui donner mon téléphone, je suis parti. Et après, je me suis dit, Michaelis, t'es un con. Je suis retourné le voir et lui ai demandé pourquoi c'est si important ce coup de fil. Et là, il a éclaté en larmes et il m'a dit, je veux savoir si les miens sont en vie et leur dire que moi, je le suis. Et là, tu restes sans voix.
Cet accueil particulier réservé aux réfugiés a même rendu l'île célèbre et attire un certain type de visiteurs très fidèles, comme Agneta Wilund, touriste suédoise qui ne vient jamais les mains vides.
Je suis touriste ici à Tilos et chaque fois j'essaye d'apporter quelque chose pour les enfants. Parfois ce sont des jouets, aujourd'hui ce sont des livres pour enfants que j'ai achetés en Suède, mais ils sont en arabe. Mais ce n'est rien d'exceptionnel, il y a plein de gens qui font ça. Je sais que cet après-midi, il y a un couple suédois qui doit arriver en bateau avec 50 kilos d'affaires pour le camp. Ils ont collecté de l'argent en Suède et acheté des affaires. Mais quelques livres, ce n'est vraiment pas grand-chose.
Le programme pilote d'intégration dure 6 mois. Après quoi, ces réfugiés devront voler de leurs propres ailes. La mairesse de Lille, qui veut en faire ses administrés, les a pourvus d'un numéro d'assuré social et d'un numéro fiscal. Mais au final, ce sera à eux de décider s'ils veulent rester ou pas.
Ce reportage ainsi que le reste du magazine sont à retrouver dans la rubrique médiathèque de notre site internet dw.com/français. Et si vous voulez nous écrire, vous pouvez nous envoyer un mail à français@dw.com. Bonne semaine à toutes et à tous, à la prochaine et tchuss.